Le journal Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. 5 mois après son arrivée au ministère de l'Intérieur, Christophe Castaner apparaît toujours fragilisé après l'explosion de violence samedi dernier à Paris, le limogeage de 3 responsables à la préfecture de police, le durcissement du ton du gouvernement, mais aussi l'audition hier devant la commission des lois du Sénat du ministre de l'Intérieur n'ont visiblement pas réussi à éteindre les critiques envers le locataire de la place Beauvau.
Celle qui était encore néophyte en politique lorsqu'elle a été nommée dans le gouvernement d'Édouard Philippe, Brune Poirson, 36 ans, a été élue vice-présidente de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement.
Un mandat de 2 ans qu'elle assurera parallèlement à ses fonctions de secrétaire d'État à la transition écologique et solidaire.
Dans votre journal également, le titre du géant allemand de la chimie Bayer dégringole depuis ce matin en bourse.
Oui, plus de 10% de baisse sur la place de Francfort. En cause, un nouveau revers judiciaire pour sa filiale Monsanto que le groupe chimique allemand a racheté l'an dernier et dont le désherbant Roundup a été une fois encore hier jugé cancérigène. Après 3 décennies à la tête du Kazakhstan, si la démission hier de l'autocrate Nazarbayev a pu surprendre dans une région plutôt habitué aux dirigeants à vie, les premières annonces 24 heures plus tard laissent entendre qu'il continuera à tirer les ficelles du pouvoir. Son prénom a notamment été proposé pour rebaptiser tout simplement la capitale du pays. Enfin, l'invité de la rédaction dans une 20aine de minutes, Eric Fotorino, directeur de la revue Le 1 et d'un tout nouveau magazine trimestriel à paraître demain en kiosque, Zadig. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Mais nous allons aussi regarder du côté des bourses ou plutôt des banques, à la fois les institutions financières mais aussi les banques centrales. Il revient sur les mécanismes qui se sont mis en place après la crise de 2008 et il s'inquiète aujourd'hui du surendettement des États et de la crise, la nouvelle probablement à venir. Invité un spécialiste de la finance internationale, ancien vice-président du New York Stock Exchange, Georges Hugeux, auteur de La descente aux enfers de la finance, sera avec nous dans une 20aine de minutes.
Merci et à tout à l'heure. Après l'explosion de violence survenue lors de l'acte 18 des Gilets jaunes à Paris, à quelques jours d'une très probable 19e journée d'action, Christophe Castaner, accusé par l'opposition d'être responsable du fiasco sécuritaire de l'avenue des Champs-Élysées, le répète sur tous les tons. Il n'y a pas eu de problème d'anticipation, mais d'application des consignes. Ou dit autrement, la hiérarchie policière n'aurait pas obéi aux recommandations du premier flic de France. Hier, lors de l'acte 2 de sa convocation devant la commission des lois du Sénat, après une première audition début décembre, à la suite déjà d'un autre samedi de violence, le ministre de l'Intérieur a de nouveau plaidé un défaut d'exécution de ses ordres. Et nul doute que lors de son audition mercredi prochain devant la commission des lois de l'Assemblée, cette fois-ci sa ligne de défense restera peu ou prou la même. Sans compter que l'éphémère chef du parti présidentiel, disciple de la première heure du chef de l'État, bénéficie pour cela du soutien plein et entier de l'exécutif qui hier encore, après le limogeage du préfet de police de Paris, a coupé 2 nouvelles têtes, le directeur de cabinet à la préfecture de police, de même que le directeur de la sécurité de proximité, manière pour le gouvernement de signifier que la responsabilité de cette débâcle policière est bien à mettre sur le compte d'un dysfonctionnement dans la chaîne de commandement. Reste un certain nombre de questions, s'agissant notamment de l'interprétation à donner à ce défaut d'application des consignes. Emmanuel Leclerc, bonjour.
Bonjour.
Alors faut-il comprendre par là que des fonctionnaires auraient renaclé à exécuter des ordres, comme le laisse entendre implicitement l'exécutif, et le cas échéant, pour quelle raison?
Eh bien, renaclé, je ne sais pas si c'est le bon terme, le bon verbe, quand on est haut fonctionnaire, préfet à la préfecture de police de Paris, mais ça reflète bien effectivement le sentiment que ces 3 hauts fonctionnaires, des grands serviteurs de l'État, comme on dit, ont en réalité refusé d'intervenir dès le début des attaques de banques, du Fouquet's ou de chez certains grands bijoutiers. La question, en tout cas, se pose toujours, 4 jours après les faits, on ne sait toujours pas préciser la nature même de ces dysfonctionnements évoqués par le ministre de l'Intérieur et son secrétaire d'État. Ce qui est à peu près sûr, c'est que ces hauts fonctionnaires n'ont pas refusé d'exécuter des ordres bien précis puisqu'il n'y en a pas eu samedi dernier. Ce à quoi a fait allusion Christophe Castaner, ce sont des ordres de changement radical de doctrine passés entre le 1er et le 8 décembre dernier. Plus de fan zones avec des contrôles préventifs massifs d'identité, des fouilles de sacs sur les aires d'autoroute, au péage et dans les gares, et ensuite des interventions avec interpellation au moins dérapage, c'est précisément cela dont il est question. Sauf que depuis, le ministre et son secrétaire d'État ont rappelé à plusieurs reprises les règles d'engagement des LBD, les lanceurs de balles de défense. Il y a eu un nombre record, on le sait tous, de plaintes pour un mauvais usage après les blessures multiples, les visages éborgnés de manifestants. Le patron de la DESPAP, Frédéric Dupuche, c'est la direction de la sécurité publique, la police de proximité à laquelle vous faisiez allusion. Eh bien, Frédéric Dupuche, limogé hier, avait effectivement décidé, il y a deux semaines d'équiper les lanceurs de balles de défense avec des balles moins dangereuses qui ne sont efficaces qu'à 6-7 mètres, alors qu'en décembre, il y a eu des tirs à 20-30 mètres. Il avait aussi équipé ses armes de caméras sur le canon même de ses armes donc. Et dans une note, il avait rappelé ce que la direction générale de la police nationale dit depuis de nombreuses années, que les LBD ne sont pas des armes de dispersion quand il y a une foule en face des policiers, mais uniquement pour se dégager en cas de prise à partie. Alors, est-ce pour cela que les policiers ne sont pas intervenus face à des centaines de casseurs et un black bloc très impressionnant sur les Champs-Élysées? Est-ce qu'il y a bien eu des ordres pour intervenir dès le départ avec un refus sur le terrain parce que justement les unités d'intervention n'étaient pas positionnées au bon endroit, parce qu'elles n'étaient pas encore en nombre suffisant à cette heure-là de la journée, parce qu'il y avait aussi beaucoup de fritures sur les lignes de commandement avec différents chefs opérationnels qui en fait ne se parlaient pas, ils étaient en concurrence.
Merci Emmanuel Leclerc. Alors la question du niveau de responsabilité dans les violences de samedi dernier pose à la fois la question de l'autorité mais aussi de l'efficacité de l'État. À ce titre, les nouvelles mesures sécuritaires annoncées par le gouvernement sont-elles de nature à ramener le calme? Roméo Van Maastricht, bonjour.
Bonjour.
Seule certitude, Roméo, plusieurs collectifs de gilets jaunes ont d'ores et déjà promis une nouvelle mobilisation samedi prochain.
Oui, sur les réseaux sociaux, il y a évidemment des rassemblements prévus samedi. Toulouse, Clermont-Ferrand, Montpellier, Paris. Le maire de Nice, Christian Estrosi, vient d'interdire les rassemblements dans sa ville samedi. Mais difficile de prévoir ce que vont faire les gilets jaunes dans les prochaines semaines. Le prochain rendez-vous d'envergure pourrait avoir lieu dans un mois, le 20 avril, à l'occasion de l'acte 23, l'ultimatum 2 à Paris. Il réunit déjà plus de 10 000 participants sur les réseaux. C'est en tout cas ce que prévoit Maxime Nicole, l'un des leaders des gilets jaunes, dans une de ses vidéos Facebook.
Beaucoup de gens sont venus sur Paris. La semaine prochaine, ils seront dans leur ville. Et comme certaines personnes l'ont dit, dans à peu près 3 semaines, il y aura un autre acte. Sûrement un très gros acte encore. Peut-être 3 semaines, peut-être 4 semaines, encore à voir. Parce que, maintenant, Manu, c'est pas un chef que t'as devant toi. C'est un peuple qui veut vivre dignement.
La stratégie des gilets jaunes pourrait tout de même se transformer à l'avenir. Moins de manifestations, plus de blocages. C'est l'appel en vidéo lancé par le gilet jaune Éric Drouet sur YouTube.
J'avais fait une vidéo, je dis que j'allais arrêter les manifestations déclarées, les marches, etc. Oui, c'est plus pour moi ça maintenant. D'avis personnel, je pense que le prochain truc à faire pour moi, c'est le blocage des ports et raffineries. Que tous les gilets jaunes se mettent que là-dessus. Et en 3-4 jours, à mon avis, c'est plié. C'est la prochaine étape à planifier et je vois pas d'autre chose. Ou refaire des samedis comme ça avec autant de monde, peut-être, mais les blocages, c'est ce qui les embête le plus.
Reste à savoir quand et où ces actions pourraient être menées. Aujourd'hui, tout est encore flou. Il est compliqué de se projeter plus loin dans l'avenir.
Merci Roméo Van Maastricht. Kingfisher a annoncé ce matin la fermeture de 11 magasins en France, soit 9 Castorama et 2 Brico Dépôt pour tenter de redresser ses activités dans l'Hexagone. Le groupe britannique ajoute qu'il va mettre en place un plan de départ volontaire pour les 789 employés concernés par ces fermetures qui se verront proposer un poste équivalent en France. La secrétaire d'État à la transition écologique Brune Poirson a été élue vice-présidente de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement. Elle devient ainsi la première personnalité française à occuper ce poste pour lequel sont éligibles uniquement les ministres en exercice. Brune Poirson va donc conserver son poste au sein du gouvernement en plus de ce mandat à l'ONU Environnement. Anne Fauquemberg, bonjour.
Bonjour.
Alors peut-être pour commencer, Anne, faut-il expliquer en quoi consiste exactement ce poste?
Oui, d'abord l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement, vous l'avez un petit peu dit, c'est l'organe de décision le plus important au monde sur les questions d'écologie. C'est une instance qui réunit les 193 pays membres de l'ONU. Elle a été créée en 2012 et c'est cette assemblée qui fixe l'agenda des négociations sur le climat et la biodiversité. Instance multilatérale qui, dans le contexte du retrait américain de l'accord de Paris, n'est pas à négliger. Brune Poirson obtient donc une place exécutive, ce qui va lui permettre d'avoir une plus grande influence, de mobiliser par exemple le secteur de la finance pour trouver des fonds destinés à la transition écologique, d'être moteur dans la lutte contre la pollution plastique. Ce sont en tout cas les ambitions de cette franco-américaine, parfaitement bilingue, aussi bien à l'aise avec les problématiques de ses homologues des pays développés que ceux des pays émergents, pour avoir notamment travaillé plusieurs années en Inde.
Alors est-ce que cette nomination, Anne, change quelque chose pour la France, dont le président, rappelons-le, avait déjà lui été élu par les mêmes Nations Unies champion de la Terre?
Pour le ministère de la Transition écologique, c'est évidemment une excellente nouvelle. Cette élection, elle renforce le rayonnement de la France à l'international, mais pour les militants de l'environnement, les 350 000 personnes qui qui étaient dans les rues le week-end dernier, eh bien pour certaines de ces personnes, ça ne changera rien. Sylvain Angerand, par exemple, le porte-parole des Amis de la Terre, il y a eu trop de déceptions, trop de langues de bois, selon lui, avec la secrétaire d'État. Il cite l'exemple de la destruction de biens par la société Amazon. Brune Poirson s'était engagée à mettre fin à ces pratiques. On en est resté au stade des grandes annonces, selon lui. Et puis encore la semaine dernière, avec les pesticides, la secrétaire d'État n'a pas eu gain de cause dans ce dossier. L'Assemblée nationale a réussi à repousser de 3 ans l'interdiction de la fabrication sur le sol français des pesticides les plus dangereux.
Merci Anne Fauquemberg. C'est la deuxième condamnation en moins d'un an pour le désherbant controversé de Monsanto. Hier, un jury américain a estimé que l'exposition prolongée au Roundup, l'herbicide le plus vendu au monde, avait été un facteur significatif dans le déclenchement du cancer d'un septuagénaire, Edwin Hardman, lequel a pulvérisé son terrain avec pendant près de 30 ans pour venir à bout d'une plante urticante. À présent, la deuxième phase de ce procès prévu pour commencer dès aujourd'hui devra déterminer si Monsanto est légalement responsable du cancer, en clair si l'entreprise connaissait ou non les risques, et le cas échéant déterminer donc le montant des dommages et intérêts qu'il devra payer. Quoi qu'il en soit, et après une lourde condamnation l'été dernier déjà dans un procès similaire, le verdict d'hier constitue donc un nouveau revers judiciaire pour le géant allemand Bayer, lequel a racheté Monsanto l'été dernier. Dès ce matin, l'action du chimiste a plongé de 10% en bourse. Les précisions à Berlin de Ludovic Piétenu.
Si l'action Bayer dévisse encore un peu plus aujourd'hui, le titre a en réalité perdu 40% de sa valeur depuis le rachat l'an dernier au mois de juin de l'américain Monsanto. Le groupe allemand connaissait les poursuites judiciaires déjà engagées aux États-Unis contre l'un des produits phares du groupe américain, son désherbant au glyphosate, le Roundup. C'est en connaissance de cause qu'il a déboursé une petite fortune pour ce rachat, 55 milliards d'euros. Jamais une entreprise allemande n'avait dépensé autant d'argent pour une acquisition à l'étranger. Le géant allemand devenait ainsi le numéro 1 mondial des semences, des engrais et des pesticides. Il contrôlait l'intégralité de la chaîne, se partageant le marché mondial avec 2 autres groupes, un américain et un chinois. Il choisissait aussi de supprimer la marque Monsanto, sans doute du fait de sa réputation controversée en Europe, et se disait prêt à assumer le coût des futurs procès. En mettant de l'argent de côté, pas loin d'1 milliard d'euros, quand certains analystes évoquent 10 milliards comme somme totale que pourraient coûter les ennuis judiciaires de Monsanto, Bayer a d'ores et déjà annoncé en décembre se séparer de 10% de ses employés en abandonnant certaines divisions de l'entreprise et en cédant plusieurs filiales.
Theresa May va formellement demander un report du Brexit à 10 jours de l'échéance. La première ministre britannique va écrire à l'Union européenne pour demander que le divorce soit repoussé. Une source ministérielle a confié à la chaîne britannique BBC que l'option d'un long délai pourrait aller jusqu'à 2 ans. De son côté, le négociateur en chef de l'UE, Michel Barnier, a d'ores et déjà prévenu que l'Europe n'accorderait pas un délai sans un plan concret du Royaume-Uni sur la façon dont celui-ci serait employé. Tiraillé depuis des mois sur le cas de Viktor Orban et ses dérapages populistes contre Bruxelles ou l'immigration, la droite européenne doit se réunir aujourd'hui pour sanctionner le dirigeant hongrois. Le Parti populaire européen devra choisir entre une suspension temporaire ou une exclusion définitive du parti d'Orban. La décision est attendue en fin d'après-midi. Après le cas de l'ex-dissident devenu maître incontesté de la Hongrie, voici le psychiatre devenu, lui, chantre de la purification ethnique. La justice internationale doit statuer aujourd'hui sur l'appel de l'ex-chef politique des Serbes de Bosnie, Radovan Karadzic. Aujourd'hui âgé de 73 ans, condamné en première instance à 40 ans de prison pour génocide, crime contre l'humanité et crime de guerre pour son rôle pendant la guerre de Bosnie, Karadzic est jugé pour sa responsabilité dans le siège de Sarajevo, mais aussi le massacre de Srebrenica en 1995, le pire massacre perpétré en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Comment renoncer à la présidence, mais pas totalement au pouvoir? Hier, Nursultan Nazarbayev, le premier et unique président du Kazakhstan, a démissionné, mettant ainsi un terme à près de 30 années de règne, sauf que l'autocrate disposera néanmoins de pouvoirs étendus après son départ, grâce à une loi votée en 2018, et puis du fait de son statut de père de la nation qui lui garantit notamment l'immunité judiciaire. Par ailleurs, dès ce matin, sa fille a été nommée à la tête du Sénat. Enfin, ce matin encore, le nom de la capitale Astana a été rebaptisé par le nom même du désormais ex-président Nathanaël Charbonnier, bonjour.
Bonjour.
C'est ce qu'on appelle pour le moins un changement dans la continuité.
Ah oui, c'est ce qu'on peut même appeler un vrai symbole. Nazarbayev n'est plus président, mais la capitale du pays porte maintenant son prénom, Nur-Sultan. Et pour ceux qui n'auraient pas bien compris le message, le nouveau président par intérim à l'origine de cette idée précise que l'opinion de Nazarbayev sera d'une importance spéciale et même prioritaire dans le développement et l'adaptation des décisions stratégiques du pays. Autant dire que les choses ne vont pas vraiment changer au Kazakhstan. Petit rappel historique quand même, Nazarbayev est à la tête du pays depuis 89, à l'époque on appelait cela premier secrétaire du Parti communiste, puis après l'indépendance de 1991, il est logiquement devenu président, réélu à 4 reprises à une écrasante majorité, plus de 80%, lors d'élections que personne n'a jamais reconnues comme étant ni libres, ni justes. Nazarbayev, 78 ans, n'est plus président, mais il reste toutefois président, car le Parlement lui a donné le droit, l'année dernière, en 2018, de continuer à régner sur le pays, même s'il venait à quitter son poste. Il reste également président du parti et du Conseil de sécurité, vous l'avez dit. Il a été aussi nommé père de la nation, ce qui lui permet d'avoir une immunité judiciaire. Bref, on le voit, ce départ est en réalité un faux départ. Il permet simplement à cet autocrate de garder les leviers du pouvoir tout en s'effaçant publiquement alors que la grogne monte dans son pays, notamment la grogne sociale, une sorte de tour de passe-passe fait avec en plus la bénédiction de son allié toujours, le russe et grand démocrate connu Vladimir Poutine.
Merci Nathanaël Charbonnier. Au moins 300 morts, c'est le dernier bilan du nombre de personnes tuées par le cyclone Idai qui a balayé la semaine dernière le Zimbabwe et le Mozambique, voisin l'un des pays les plus pauvres du monde, et le bilan pourrait encore s'allouer. Des milliers de rescapés sont toujours réfugiés sur des arbres et des toits alors même que des pluies abondantes sont attendues dans les prochains jours. Sans surprise, Donald Trump et Jair Bolsonaro, l'un de ses plus fervents admirateurs, ont fait montre de leur unité et même d'une certaine forme de complicité hier à Washington. Le président américain et son homologue brésilien ont loué une proximité sans précédent entre les deux pays, concrétisant ainsi non seulement un changement de cap inédit dans leurs relations bilatérales, mais aussi et surtout dans la politique étrangère brésilienne. Les explications d'Olivier Poujade.
Avant de sceller la mise en route de ce qui devrait ressembler à un axe de coopération nord-sud sur le continent américain, les deux présidents se sont retrouvés sur un point commun essentiel d'après Jair Bolsonaro. Nous avons l'âge des femmes que nous aimons. Le genre de flatterie sexiste qu'aurait pu prononcer Donald Trump et dont raffole le Brésilien qui a passé l'essentiel de sa visite à insister sur la complicité, les fous rires et les valeurs familiales qu'il partage, dit-il, avec le président américain. De quoi planter le décor de cette union populiste inédite de l'autre côté de l'Atlantique, un virage à 180 degrés de la diplomatie brésilienne qui a pourtant dans l'histoire toujours pris ses distances avec les États-Unis. Depuis hier, les deux pays ont affiché leur volonté d'avancer main dans la main. Donald Trump soutiendra son jumeau tropical pour intégrer le club très fermé des pays de l'OCDE, malgré la réticence de certains conseillers. Et en contrepartie, le Brésil de Jair Bolsonaro prendra ses distances avec l'Inde et la Chine pour permettre aux États-Unis de se débarrasser du statut spécial des pays en développement au sein de l'OMC. Des petits échanges entre nouveaux amis dont Donald Trump pourrait tirer un plus grand profit que Jair Bolsonaro. En décidant de faire de sa base militaire d'Alcantara un site de lancement pour les satellites américains, le Brésilien va sans doute s'attirer de nouveau les foudres de ses généraux, déjà fermement opposés il y a quelques mois au projet d'implantation d'une base militaire US sur le sol brésilien. L'admiration sans borne du leader brésilien d'extrême droite pour Donald Trump semble lui faire oublier ses engagements vis-à-vis de ses voisins sud-américains de l'UNASUR, celui notamment de conserver sa souveraineté dans les domaines stratégiques.
Invité aujourd'hui de la rédaction, Eric Fotorino, directeur de la revue Le 1 et d'un tout nouveau magazine trimestriel Zadig, à paraître demain en kiosque. Bonjour monsieur.
Bonjour.
À mes côtés pour vous interroger, Maxime Fayol. Bonjour Maxime.
Bonjour.
Première question, monsieur Fotorino, vous insistez beaucoup là-dessus, il s'agit là d'un magazine et non pas d'une revue. Pour quelle raison? Est-ce à dire que Zadig sera une publication non spécialisée dans un domaine précis?
Non, c'est pas ça. La revue pour moi a côté un petit côté installé, on est un peu dans son fauteuil et puis on regarde le monde, on l'analyse, on le décortique. Là, on est vraiment dans un journal trimestriel qui marche comme un journal, c'est-à-dire qu'on va voir, c'est beaucoup de reportages, beaucoup d'enquêtes sur le terrain, et je crois que c'est ça qui, à mes yeux, en tout cas, distingue le magazine là, et d'une revue.
Une question de Maxime Fayol.
Alors le thème central de ce magazine, c'est réparer la France, hein, c'est le titre. Vous parlez de rendre lisible un pays devenu illisible. Ça reflète bien le climat actuel avec la crise des gilets jaunes. C'est ça qui a inspiré l'écriture de Zadig ?
Alors Zadig, c'est un projet qui remonte à 2 ans, donc évidemment on n'avait pas cette préscience des gilets jaunes. En revanche, c'est vrai que j'ai perçu assez tôt qu'il y avait un besoin de récit en France, de raconter notre pays. Et je pense qu'il faut des mots, M-O-T-S, pour essayer d'aller au-devant. Des mots, M-A-U-X, qui fracturent ou qui déchirent notre pays. Et pour ça, dans un moment de dématérialisation de l'information, où on est soumis à une forme de tyrannie de l'instant, parce qu'il faut aller très vite, eh bien, j'avais envie de proposer des lectures longues, avec beaucoup de reportages, beaucoup de terrain, pour aller, j'allais dire, respirer l'air de ceux sur lesquels on écrit.
Et justement, vous faites ce pari du reportage, du long format, avec oui. des papiers qui sont très très longs, qui font jusqu'à 5, 6, 7, 8 pages pour certains. Est-ce à dire pour vous qu'on manque de reportage dans les médias actuellement ?
Bah, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à dire sur le reportage. On est dans une société des écrans. Où la capacité à identifier le réel est beaucoup plus faible, d'où effectivement, je pense, notamment cette explosion des fausses informations, des fake news, etc. Et je crois que la base de notre métier, c'est d'aller voir, toujours, et d'aller voir le réel, se colter avec le réel, de se faire bousculer par le réel. Je pense que c'est la base. Après, on peut analyser, on peut avoir du surplomb, on peut avoir tout ça, mais je crois que le terrain reste le lieu où les choses se passent.
Une question encore de Maxime, peut-être ?
Oui. Vous sentez, on l'a dit, ce besoin de réfléchir, d'aller plus loin. Est-ce que vous sentez aussi ce besoin de lire plus long ? Vous parlez d'une société des écrans, mais justement, on a ce problème aujourd'hui, c'est qu'on n'est plus habitué à lire de manière longue.
C'est vrai, je crois que ce qu'on appelle l'économie de l'attention, c'est-à-dire comment on capte l'attention d'un lecteur, c'est vraiment un enjeu considérable. Et puis aussi, l'information a été, j'allais dire, gangrénée à la fois par le spectacle et par le divertissement, par l'insignifiance. Si on reprend les écrits de Guy Debord, il y a très longtemps, hein, au moment de la société du spectacle, quand il disait « un jour, le vrai ne sera plus qu'un moment du faux », c'était vraiment nous dire qu'on était en train de monter dans les apparences. Et je pense que l'intelligence artificielle, l'information algorithmée, tout ça nous fait nous échapper par étapes de cette réalité. Donc effectivement, lire long, ça veut dire qu'on n'ira jamais plus vite, mais on ira toujours plus profond. Quand j'envoie un reporter avec les marins du Guilvinec pendant plusieurs semaines, c'est un papier, alors pour c'est 45 000 signes, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est un long texte, voilà, c'est un très long texte. Eh bien, on a le mal de mer dès les premières pages, mais ce qui est important, c'est qu'on est avec eux, on n'est pas au-dessus d'eux. On est avec eux et on comprend à la fois leurs espoirs, on comprend leur vie au jour le jour, presque heure par heure. Et je crois que c'est ça, se plonger dans la réalité des autres. Vous savez, il y a Pierre Rosanvallon, que l'on interview dans ce numéro, s'appuie sur Michelet, où Michelet disait « Il n'y a rien de pire pour un pays lorsque les uns se mettent à ignorer les autres ». Mais je pense que Zadig est là pour essayer de casser ce moule d'ignorance.
Vous avez fait un dossier central, hein, qui est centré sur, justement, je le disais, réparer la France, qui fait 70 pages environ.
Oui.
C'est quand même quelque chose de
très,
200
très long. Pages, voilà.
C'est presque la moitié. Ouais. Mais il n'y a pas que des journalistes, hein, aussi, c'est ce qu'il faut comprendre, hein, dans ce magazine, c'est qu'il y a aussi des historiens, des sociologues, des écrivains qui vont en parler.
Oui, j'ai voulu qu'il y ait plusieurs portes d'entrée, un peu. Vous savez, quand j'ai lancé le 1, mon hebdomadaire, il y a 5 ans, que vous rappeliez tout à l'heure, le premier numéro, le 1 du 1, si je veux dire, ça s'appelait « La France fait-elle encore rêver ?» Et il y avait à la fois des textes de Jean-Marie Leclésio, des photos commentées par Raymond Depardon, etc. C'est la même idée. Je creuse le même sillon depuis 5 ans. Je raconte mon pays. Et donc, si vous voulez, dans Zadig, vous avez les reporters de terrain, vous avez des écrivains, là c'est Marie Darrieussecq, c'est Léla Slimani, c'est Christian Bobin qui raconte le Creusot à sa manière, ou Maïlys de Kerangal qui raconte le Havre à sa manière. Et puis en effet des historiens, des démographes comme Hervé Lebras, etc. Donc très important dans leur vision de la France. Et puis pour finir, et ça pour moi c'est majeur, des dessinateurs, des photographes, des gens qui ont un œil, qui ont un regard. Et c'est tous ces regards à la fois écrits et vus qui se superposent, qui s'ajoutent et qui créent justement cette publication.
Je voudrais terminer par une question d'ordre économique. Vous avez fait une campagne de financement participatif qui a permis de lever un peu plus de 270 000 euros. Est-ce que c'est suffisant pour faire vivre un magazine comme Zadig ?
Alors c'est suffisant si les lecteurs sont là dès le premier numéro, bien sûr. Cette campagne, elle nous a appris 2 choses. C'est que d'une part, qu'on pouvait, il y avait une attente qu'il y avait une attente de ses lecteurs. Il y a plus de 5000 personnes qui, sans avoir rien vu, ils ont simplement entendu à quoi ça allait ressembler, ils n'avaient rien vu, nous ont aidés. Et la deuxième chose, c'est de voir qu'il faut construire une confiance avec les lecteurs. C'est-à-dire que si le premier numéro déçoit, il n'y en aura pas deux. Si, au contraire, il est à la hauteur des attentes, il ne faut jamais décevoir une attente, eh bien, on continuera longtemps et ces 270 000 auront été le carburant pour se lancer.
Merci Eric Fotorino d'avoir été en direct avec nous aujourd'hui. Et belle vie donc à votre nouveau magazine Zadig à paraître demain en kiosque. Et merci également à Maxime Fayol. Et en librairie, vous faites bien de le préciser. On termine avec un mot rapide de météo. Une France partagée en deux cet après-midi. Ciel dégradé au nord, ensoleillé au sud. Quant aux températures, elles seront généralement comprises entre 12 et 18 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par François-Charles Domergue. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.